Alors, à votre avis, quel est le métier le plus important du monde? D'après ce que j'ai pu voir sur Internet, il y a plusieurs occupations dans l'histoire qui ont tantôt prétendu à ce titre pompeux. Il y a eu les médecins, il y a les juges, il y a eu les bourreaux, et puis il y a les mamans aussi. Mais de loin, le métier qui est le plus souvent considéré comme étant le plus important du monde, de loin, c'est le métier d'enseignant. C'est intéressant parce que cette idée n'est pas étrangère à ce qu'affirme la Bible en fait. D'après la Bible, le métier le plus important du monde, c'est effectivement le métier d'enseignant, mais pas n'importe quel genre d'enseignant. Le métier d'enseignant de la Bible. Le métier d'enseignant de la Bible, c'est-à-dire les gens qui sont spécialisés dans la transmission du message de l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament. On les appelle parfois des serviteurs de la parole, ou encore, un terme un peu plus technique, des ministres de la parole, ou tout simplement des pasteurs, sens large, ou encore des prédicateurs, ou encore parfois des docteurs. Il y a un homme qui a exercé ce métier pendant plus de 60 ans et qui est mort cette semaine. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelait John Stott, qui est mort en début de semaine. Et voici ce que John Stott a écrit au sujet du métier de pasteur dans un livre intitulé « Le chrétien à l'aube du XXIe siècle ». Et John Stott a été ce genre d'homme, ministre de la parole, pendant plus de 60 ans. Voici ce qu'il a écrit. En tant que bon berger, Jésus a été un maître exceptionnel qui a donné à ses disciples un enseignement de qualité. Les pasteurs d'aujourd'hui ont aussi cette responsabilité de la plus haute importance. Le serviteur de Dieu, dit-il, est essentiellement un serviteur de la parole. Le pasteur est avant tout un enseignant, un docteur, un maître. Rien n'est plus nécessaire aujourd'hui, dit-il, qu'un exposé fidèle et systématique de l'Écriture du haut de la chair. Alors, le métier le plus important du monde, ministre de la parole. Ministre de la parole. Et vous pensez peut-être que j'exagère ce soir. C'est compréhensible, hein. C'est vrai qu'à première vue, on n'a pas forcément l'impression que les pasteurs font un travail si important que ça. Surtout que les gens qui enseignent la Bible en général ne sont pas particulièrement valorisés de nos jours dans notre pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais justement, une des choses que déplore John Stott dans le même chapitre de ce même livre dont j'ai tiré la précédente citation, une des choses qu'il déplore, c'est justement le manque de considération dont souffrent les ministres de la parole dans de nombreux pays, même des pays à forte population protestante, et même dans les églises. Mais cette situation, en fait, n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Même au premier siècle, lorsque l'église chrétienne était encore en train de naître et de se développer, de s'implanter dans diverses régions du monde, le rôle de pasteur, au sens général, au sens d'enseignant de la Bible, ce rôle-là n'était déjà pas apprécié à sa juste valeur. Et c'est à cause de ce manque de reconnaissance que Paul écrit ces quelques lignes qu'on va lire dans quelques instants à Timothée. Et dans ces quelques lignes, vous allez le voir, Paul veut faire mesurer à Timothée, qui est un jeune pasteur, mais aussi à son église, il veut leur faire mesurer l'importance de la fonction de ministre de la parole. Les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde. Et mine de rien, cette affirmation a des implications importantes pour nous aujourd'hui. Alors lisons le texte, verset 11. On va prendre verset 11 et lire jusqu'au verset 16. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Avant de continuer, prions. Nous voici, Seigneur, une fois de plus, à ouvrir ta parole, à la lire et à l'étudier ensemble. Mais faire cela, ça servirait à rien si nous n'étions pas assistés par ton Saint-Esprit pour bien comprendre ce que toi, Seigneur, tu veux nous faire comprendre. S'il te plaît, applique la vérité de ta parole à nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce passage, pour nous faire comprendre que les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde, et bien Paul va souligner quatre qualités qui sont censées caractériser les ministres de la parole, ou les prédicateurs, d'accord ? Ces quatre qualités, vous les avez dans le bulletin, c'est le courage, l'exemplarité, le dévouement et la persévérance. Le courage tout d'abord. Verset 11, Paul dit à Timothée, « Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. » Alors il vient de donner, bien entendu, à Timothée toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de recommandations, et là il dit, « C'est ça que tu dois recommander et enseigner. » Mais en grec, le mot qui est traduit par « recommander » ne signifie pas simplement donner des conseils, comme parfois on emploie ce mot aujourd'hui en français. Je te recommande de faire ceci ou je te recommande de faire cela. En grec, le mot recommande, qui est traduit par recommander, signifie plus précisément transmettre des ordres, pas des conseils, des ordres. Paul veut que Timothée ait conscience qu'en tant que ministre de la parole, en tant qu'enseignant de la Bible, autrement dit, il est chargé de transmettre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu aux gens. Il doit enseigner la Bible avec autorité, au point de pouvoir dire aux gens, voici ce que Dieu dit et voici ce que Dieu veut. Il transmet des ordres de la part de Dieu. Et faire cela, bien entendu, vous pouvez l'imaginer, ça nécessite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. On l'a déjà dit dans le passé, dans le cadre de cette série sur 1 Timothée, mais Calvin compare les pasteurs ou les enseignants de la Bible, il les compare à des lieutenants. Des lieutenants. Ils n'ont pas d'autorité en eux-mêmes, mais ils sont censés représenter quelqu'un d'autre qui a une autorité supérieure. Et en l'occurrence, en ce qui concerne les ministres de la parole, les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, ils sont censés représenter Dieu. Imaginez dans notre société des policiers, d'accord, qui sont des genres de lieutenants, ils sont censés représenter la loi et l'autorité du gouvernement. Mais imaginez des policiers qui exerceraient leur métier en étant timides, en étant tout timides. « Excusez-moi, monsieur, vraiment, je suis désolé d'interrompre votre voyage et de vous arrêter sur le bord de la route et de vous faire perdre du temps. Vraiment, je suis très confus, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais il me semble, et peut-être que je me suis trompé, mais d'après mon radar, eh bien, votre véhicule, peut-être sans que vous le sachiez, sans que vous vous en soyez rendu compte et sans que vous le fassiez exprès, il semblerait que vous circuliez sur cette route nationale à 150 km/h. Pardon, mais... D'après mon interprétation du code de la route, il semblerait que ce soit interdit. Et donc, malheureusement, je crois que je dois probablement vous demander de bien vouloir payer cette amende. C'est un peu drôle, mais la réalité, c'est qu'en tant que prédicateur, on est parfois tenté d'enseigner la Bible de cette façon. Et en tant que chrétien, on est parfois tenté de vouloir que les pasteurs nous parlent de cette façon. Mais ce que Paul dit à Timothée ici, c'est qu'en tant que ministre de la parole de Dieu, et peu importe son âge, il lui dit de ne pas être timide, là où Dieu lui-même n'est pas timide. Voilà ce que tu dois transmettre comme ordre, c'est ça que ça veut dire, recommander, et enseigner. Là où Dieu est clair dans la Bible, le prédicateur doit être clair dans son enseignement. La plupart du temps, la Bible est claire dans ce qu'elle enseigne. Et le problème, c'est pas que la Bible n'est pas claire, mais au contraire, le problème, c'est qu'elle est claire et qu'elle dérange, parfois, dans les choses qu'elle dit et qui sont claires. Mais vous comprenez, ce qui compte, ce n'est pas l'opinion personnelle du prédicateur, ni l'opinion personnelle de l'auditoire. Ce qui compte, c'est l'opinion personnelle de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui compte. Et ce que Dieu dit, par définition, c'est de la plus haute importance. Les gens qui enseignent la Bible exercent donc le métier le plus important du monde, tout d'abord parce qu'ils sont des porte-paroles du roi des rois. Et par conséquent, ils doivent exercer leur fonction avec beaucoup de courage. Deuxième qualité qui doit caractériser, selon Paul, les ministres de la parole. Deuxième qualité, l'exemplarité. Et ce que Paul dit ici, ce n'est pas bien compliqué. Parce que Timothée est un lieutenant ou un porte-parole chargé de transmettre aux gens la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, eh bien, du fait de cette fonction, il doit être honoré et respecté, dit-il, peu importe son âge, que personne ne méprise sa jeunesse. Mais, il continue, cette crédibilité nécessaire à l'exercice de sa fonction, elle ne se commande pas. On ne peut pas l'imposer aux gens. On ne peut pas forcer les gens au respect et à la confiance. C'est impossible. Ce que Paul dit ici, donc, c'est que cette crédibilité va se gagner par une vie exemplaire de la part de Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, etc. Autrement dit, l'enseignement de Timothée n'aura de crédibilité auprès de son Église que dans la mesure où Timothée se sera administré cet enseignement à lui-même. Je répète, l'enseignement de Timothée n'aura de crédibilité auprès de son Église que dans la mesure où Timothée se sera administré cet enseignement à lui-même. Pour illustrer ce point, je pense à quelque chose qui s'est passé chez moi avant-hier. Mon beau-père est revenu d'une promenade en forêt près de chez nous, père de Suzanne, Francis, que vous connaissez, il a prêché ici en mon absence plusieurs fois. Il est revenu d'une promenade en forêt près de chez nous avec des champignons qu'il avait ramassés près du chemin et qu'il comptait cuisiner pour le dîner, d'accord ? Sachant que mon beau-père n'est pas pharmacien, ni un grand spécialiste des champignons, vous savez comment on les appelle, les spécialistes des champignons ? Des mycologues. Bravo, bravo. Sachant que mon beau-père n'est ni pharmacien ni mycologue, je lui ai demandé s'il était sûr que ces champignons étaient comestibles. Et il a dit « Oui, oui, t'inquiète pas !» J'ai beau faire confiance à mon beau-père, il a fallu que je le voie de mes yeux avaler ces champignons et survivre pour que mes dernières craintes s'évanouissent et que j'en mange moi-même. Mais imaginez si mon beau-père m'avait dit « Tu peux en manger, t'inquiète pas, ils sont comestibles, simplement moi, je ne vais pas prendre ce risque. » Encore une fois, c'est drôle, mais je crois qu'en tant que prédicateur, on se retrouve parfois dans ces situations précises. Il est facile de dire du haut de la chair « Ne médisez pas les uns des autres. » Et puis le lendemain, de dire du mal d'un collègue. Il est facile de prêcher la maîtrise de soi et le soir de s'emporter contre ses enfants. Il est facile d'enseigner aux gens de s'aimer les uns les autres et puis ensuite, à côté, de vivre soi-même égoïstement. Il est facile de dire à une église « Ayez confiance en Dieu !» et puis en même temps d'être profondément découragé spirituellement dans son cœur. Il est facile d'enseigner la pudeur et la modestie et de ne pas s'appliquer ces principes à soi-même. Facile à faire. Mais Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Paul est en train de mettre la pression sur Timothée ici. Rappelez-vous que cette lettre, elle a été lue publiquement. C'est possible, par Timothée lui-même, devant son église. Et Paul est en train de dire, Timothée, sois un modèle pour les gens à qui tu es en train de lire cette lettre. Vous imaginez la pression que ça lui met. Mais indirectement, il met aussi la pression sur tous les ministres de la parole, du fait de l'importance de leur fonction. Les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde. Deuxièmement, donc, parce que l'objet de leur enseignement engage la vie tout entière et par conséquent, ils doivent eux-mêmes mener une vie exemplaire. Ils doivent eux-mêmes être des modèles pour les fidèles. Troisième qualité qui doit caractériser les ministres de la parole, le dévouement. Ce qu'on voit dans les versets 13 à 15, c'est que Paul veut que Timothée se consacre pleinement à son travail de prédicateur ou d'enseignant de la Bible. Il veut qu'il s'y consacre pleinement. Vous voyez ce qu'il dit au verset 15, il ne pourrait pas être plus clair. « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. » Et déjà au verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, etc. » Concrètement, Paul veut que Timothée passe son temps à lire, à étudier et à transmettre ses connaissances. C'est ça le cahier des charges de Timothée. Passe ton temps à lire, à étudier, à préparer des messages et à transmettre des connaissances. Timothée est un enseignant de la Bible et sa capacité à enseigner, cela nous est suggéré ici au verset 14, sa capacité à enseigner, il l'a reçue du Saint-Esprit comme un don spirituel. Ce qui a été d'ailleurs reconnu et approuvé par les responsables de l'Église qui lui ont imposé les mains pour le consacrer à ce travail. En tant que prédicateur, vous voyez, la mission de Timothée est donc sérieuse et précise. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il doit faire. Paul ne veut donc pas que Timothée s'éparpille en faisant toutes sortes d'autres choses qui ne seraient peut-être pas aussi importantes, bien que légitimes, mais qui ne seraient peut-être pas aussi importantes que le fait d'enseigner la Bible et qui auraient pour conséquence, finalement, de négliger, pour Timothée, de négliger sa principale responsabilité, qui est d'enseigner et qui correspond à un don spirituel précis que le Saint-Esprit lui a donné et une tâche pour laquelle il a été, dont il a été chargé et pour laquelle il a été consacré par les anciens de son Église. Alors on raconte l'histoire d'un homme à qui on avait confié la garde d'un phare situé sur une côte particulièrement escarpée et piégeuse pour les navires. Et l'homme en question était chargé de maintenir le phare allumé chaque nuit pendant un mois entier jusqu'à la relève. Et on lui avait laissé en réserve juste ce qu'il fallait de pétrole pour accomplir sa mission. Un jour, une dame est venue lui demander du fioul pour sa cheminée, parce que l'hiver était rude et qu'elle avait épuisé son propre réservoir. Un autre jour, c'est un fermier qui est venu lui demander de l'essence, du carburant, pour alimenter son tracteur qui était tombé en panne sèche. Un autre jour, c'est un jeune homme qui cherchait sa route pendant la nuit et qui avait besoin d'essence pour sa lanterne. Le gardien du phare a estimé que chacune de ces requêtes était importante et systématiquement, il a distribué juste ce qu'il fallait de pétrole pour que chaque demande soit satisfaite. À quelques jours de la fin du mois, toutefois, il ne restait plus assez de pétrole pour alimenter le phare. Et celui-ci s'est éteint, quelques jours avant la relève. Et cette nuit-là, à cause du noir, trois navires ont heurté les récifs près de la côte et plus de 100 personnes ont péri dans la mer. Au cours de l'enquête qui a suivi l'accident, le gardien du phare a expliqué ce qui s'était passé et il a affirmé avoir agi par bienveillance. Et bien sûr qu'il avait agi par bienveillance, par générosité, par amabilité, par solidarité. Mais le juge chargé de l'affaire lui a répondu « Le problème, monsieur, c'est qu'on vous avait chargé d'une seule mission, celle de maintenir le phare allumé, et tout le reste devait passer après. Monsieur, vous n'avez aucune excuse. » Eh bien, le ministre de la parole, le prédicateur, l'enseignant de la Bible, lui aussi, au niveau de sa vocation particulière en tout cas, il est chargé d'une seule mission, celle de transmettre la pensée de Dieu, et tout le reste doit passer après. Les gens qui enseignent la Bible ont une responsabilité de la plus haute importance, comme le dit John Stott, une responsabilité de la plus haute importance. Et Dieu équipe ces hommes-là précisément, pour qu'ils fassent le travail qu'il leur a confié, et pour qu'ils puissent également progresser avec l'expérience dans l'exercice de cette fonction. Alors il est fort dommage de constater aujourd'hui que beaucoup de pasteurs passent la majeure partie de leur temps à faire autre chose qu'enseigner la Bible. Je connais des pasteurs qui dirigent des chorales gospel ou des pasteurs qui font des sorties pour les jeunes et qui font presque que ça, qui font du canoë. Et c'est sans doute, toutes ces activités sont sans doute tout à fait légitime. Mais selon Paul, nous avons une tâche précise et sérieuse. Et si on ne passe pas la majeure partie de notre temps à la faire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et comme on va le voir dans le dernier point, ce constat est grave parce que l'enjeu est important. L'enjeu est important. Mais pour l'heure, pour l'instant, notons simplement que si on veut voir des hommes, comme le dit Paul, s'appliquer et être tout entier à cette tâche qui est d'enseigner la Bible, il nous appartient en tant que chrétiens, il vous appartient en tant que chrétiens également, de montrer que nous prenons au sérieux et que nous valorisons la qualité de l'enseignement de ces hommes. Par exemple, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour tous ceux qui ont l'occasion de venir prêcher ici dans notre église et toutes les autres personnes que vous connaissez qui ne sont peut-être pas dans cette église, mais qui sont engagées à temps plein au service de la parole de Dieu. Par exemple, félicitez-les ou remerciez-les lorsqu'ils prennent 20 ou 25 heures dans la semaine pour préparer un message, voire plus. Félicitez-les d'avoir pris autant de temps pour faire un travail si sérieux et de qualité. Il nous appartient aussi de leur faciliter la tâche et de les libérer dans l'exercice de cette fonction. Par exemple, en tant que chrétien, en se portant volontaire pour aider dans d'autres domaines, comme la chorale gospel ou les sorties de jeunes, etc., pour, dans ces domaines de la vie de l'Église où les prédicateurs ne sont pas forcément appelés à s'investir. En tout cas, les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde. Troisièmement donc, parce que c'est Dieu lui-même qui leur a confié cette tâche sérieuse et précise, et par conséquent, ils doivent pleinement s'y consacrer. Quatrième et dernière qualité qui doit caractériser les ministres de la parole dans ce texte, la persévérance. Au verset 16, vous voyez, Paul donne un ordre à Timothée qui résume un peu toute la leçon qu'il a voulu lui transmettre. En gros, c'est l'application de cette leçon. Et il dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En gros, c'est tout ce que Paul a voulu dire et faire comprendre à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais il ajoute un élément intriguant juste après. Avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Ce que Paul est en train de faire comprendre à Timothée ici, c'est qu'en administrant la parole de Dieu avec persévérance, d'abord à lui-même, ensuite aux autres, Timothée est en train de faire usage de l'outil que Dieu a choisi d'utiliser ordinairement pour sauver les hommes. Je répète, en administrant la parole de Dieu avec persévérance, d'abord à lui-même, ensuite aux autres, Timothée est en train de faire usage de l'outil que Dieu a choisi d'utiliser ordinairement pour sauver les hommes. Ça, c'est l'enjeu de la tâche, le salut des hommes. Et en parlant du salut des croyants, l'apôtre Pierre, par exemple, il dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, il dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. » Jésus, quant à lui, dit à ses disciples « Déjà vous avez été émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il dit quant à lui que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli avec succès ce pourquoi il l'a envoyé. Et on pourrait multiplier les passages de la Bible qui montrent que la Bible, la parole de Dieu, est en effet l'outil que Dieu a choisi d'utiliser ordinairement pour sauver les hommes. Et par conséquent, c'est un outil particulièrement efficace. La parole de Dieu est un outil particulièrement efficace. Et c'est pour cette raison que Paul dit à Timothée ici, en tant qu'enseignant de la Bible, qu'il doit s'administrer la Bible à lui-même, veille à toi-même, dit-il, et ensuite administrer la Bible aux autres. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et il doit le faire avec persévérance, parce que c'est par ce moyen-là que Dieu est en train de réaliser son œuvre salvatrice, son œuvre qui sauve des hommes, des femmes et des enfants. Dans la vie courante, on est parfois confronté à des situations où on a besoin d'un outil pour réaliser ce qu'on veut faire. Il y a sans doute plein de situations comme ça où on se rend compte qu'on a besoin d'un outil particulier qui soit efficace pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Et cette semaine, j'ai voulu cuisiner des ailes de poulet à l'américaine, et pour cela, il a fallu que je coupe... Ok, c'est pas une super illustration, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée. Il a fallu que je coupe ces ailes de poulet au niveau de l'articulation. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de briser l'articulation d'une aile de poulet crue, mais c'est très difficile. C'est très difficile, voire impossible. À main nue, en tout cas, c'est impossible. S'il y a un truc, il faudra me le dire. Alors Suzanne m'a donc présenté un couteau de boucher bien acéré, okay, et je me suis mis à l'utiliser. Mais même avec cet outil formidable, il a fallu que je m'emploie à la tâche avec une certaine persévérance, parce que c'est pas facile, c'est pas automatique et c'est pas immédiat. Mais c'est efficace. Il en est de même avec la parole de Dieu. C'est pas facile, c'est pas instantané, c'est pas automatique, mais c'est efficace. Et au sujet de la parole de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a pas d'outil plus efficace que la Bible pour sauver des hommes. Et c'est pourquoi il faut que les prédicateurs l'administrent avec persévérance. Pourquoi la Bible est-elle si efficace? Parce qu'elle explique aux hommes d'où ils viennent, ce qui ne va pas et comment s'en sortir. La Bible explique que les hommes ont perdu leur communion avec Dieu du fait de leur désir d'indépendance et qu'ils se sont retrouvés par conséquent en proie au mal et à la mort. Mais la Bible tout entière témoigne aussi de Jésus-Christ. Elle témoigne de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, qui est venu habiter parmi les hommes, comme on le voit dans les évangiles, qui a vécu une vie parfaite et qui est mort en innocent sur la croix pour prendre sur lui le châtiment de nos fautes et ainsi libérer du mal et de la mort tous ceux qui lui remettent leur vie. Jésus est capable de vous libérer une fois pour toutes de vos péchés, de votre crainte de la mort et du jugement de Dieu que vous méritez à cause de vos péchés, parce que Jésus est ressuscité en vainqueur et il règne aujourd'hui à la droite de Dieu en maître suprême. Il a tous les moyens à sa disposition pour vous sauver parfaitement. Et ce salut vous est annoncé dans les pages de ce livre, de l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament. Voilà pourquoi la Bible est efficace. Dans l'autre épître de Paul à Timothée, dans la seconde épître de Paul à Timothée, Paul lui écrit ceci. « Timothée, tu connais les écrits sacrés, c'est-à-dire les écrits de la Bible. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Vous voyez l'utilité et l'efficacité de la Bible. Alors, est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus? Est-ce que vous êtes attentif et sensible au message de la Bible tout entière, qui parle de votre problème, mais aussi du remède éternel que Dieu vous offre gratuitement en Jésus? Les gens qui enseignent la Bible exercent le métier le plus important du monde. Quatrièmement donc, parce que la Bible, c'est l'outil que Dieu a choisi d'utiliser ordinairement pour sauver les hommes. Et par conséquent, les ministres de la parole doivent administrer cette parole avec persévérance. Alors pour conclure, vous voyez que Paul a voulu faire mesurer, et comment il a voulu faire mesurer à Timothée, ce jeune pasteur, ainsi qu'à son église, quelle est l'importance de cette fonction de ministre de la parole, ou de prédicateur, ou de pasteur, ou tout simplement d'enseignant de la Bible. Est-ce que vous aussi vous mesurez l'importance de cette fonction ? John Stott, dans le même livre, toujours, a écrit « De trop nombreuses communautés sont malades et même agonisantes par manque de nourriture solide, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et au sujet du travail des pasteurs, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens. Au sujet des enseignants de la Bible, voici ce qu'il dit. « C'est Christ que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. » Voilà pourquoi c'est le métier le plus important du monde. Amen.